Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Radio Prague. Le projet d'un nouveau ministère pour la recherche et l'innovation se concrétise. Les communes pourraient recevoir près de 74 millions d'euros pour infrastructures et puis la majorité des Tchèques sont pour la peine de mort. Le conseil législatif du gouvernement a recommandé au cabinet d'approuver le projet visant à créer un ministère pour la recherche et l'innovation. Cette information a été communiquée ce jeudi par le président du conseil et ministre en charge des droits de l'homme, Jiří Dienstbier. L'installation de ce ministère permettrait de faciliter le système actuel qui répartit le financement des projets, les pouvoirs d'évaluation et de contrôle ou encore les questions liées à l'avenir de l'orientation de la recherche entre plusieurs institutions. Cette centralisation d'autorité a pour objectif d'augmenter la qualité et la compétitivité de la recherche en République tchèque. Avant l'adoption de ce projet, il faudrait néanmoins modifier la loi qui définit le nombre et la fonction des ministères. Un nouvel amendement à la loi prévoit que les inspecteurs de l'inspection tchèque du commerce pourraient à la fois pénétrer dans une propriété close d'un entrepreneur ainsi que garder leur anonymat. Selon ce nouveau projet déposé par le ministère de l'Industrie et du Commerce, les inspecteurs pourraient également changer d'identité lors d'événements de démonstration de produits. Jusqu'à présent, chaque inspecteur avait l'obligation de révéler son identité. Selon le ministère, cette mesure doit conduire à une surveillance plus efficace de l'inspection tchèque du commerce dans le cas où il y aurait suspicion d'infraction chez certains entrepreneurs. Les communes pourraient obtenir 2 milliards de courants supplémentaires, soit environ 74 millions d'euros pour le développement régional et pour les investissements dans des infrastructures. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Finances, Andrei Babiš, lors de sa visite de la ville de Příbram en Bohême centrale. Il a ajouté également que ces moyens que son ministère a réussi à économiser au budget d'État, pourraient être fournis aux communes d'ici la fin de cette année. Les problèmes des infrastructures se manifestent notamment dans des petits villages qui ne disposent que d'un budget très limité. Les partisans de la peine de mort semblent être de plus en plus nombreux en République tchèque. Selon un sondage public réalisé par CVVM, près de 58% se sont prononcés pour la peine capitale. Seuls 35% des Tchèques seraient contre la peine de mort. La peine capitale a été abolie dans le pays en 1990. Elle a été remplacée par la peine d'emprisonnement à perpétuité. Le ministère des Transports a lancé la préparation des améliorations de sécurité de 24 passages à niveau pour près d'1,9 milliard de couronnes, soit 70,3 millions d'euros. Cette information a été publiée dans l'édition du quotidien tchèque Mladá Fronta Dnes ce jeudi. Plusieurs passages à niveau figurent parmi les lieux qui doivent être refaits, dont notamment le corridor du village Studenka, situé près du Nový Jičín à Moravie-Silesie. Lui qui a été témoin de nombreuses reprises d'accidents graves. L'année dernière, un camion qui était resté bloqué sur les rails a été percuté à pleine vitesse par un train. L'accident avait fait 3 victimes. On termine comme toujours par un mot de la météo. Bien que le ciel soit plutôt nuageux sur l'ensemble du territoire tchèque ce vendredi, jour de la fête des Magdalena, les températures sont toujours en hausse et varient entre 25 et 29 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information qu'a eu le plaisir de vous présenter Alžbeta Rušková. Vous êtes à l'écoute de Radio Prague et on continue maintenant avec Pierre Maignan. Très bonne écoute.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à tous les amis et bienvenue à l'écoute du programme quotidien de Radio Prague, un programme consacré à l'actualité tchèque. Commençons tout d'abord par remercier Alžbeta Rušková pour son bulletin d'information. Au sommaire de cette édition, on parle des graves difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs tchèques et en particulier les producteurs laitiers. Bruxelles a annoncé le déblocage d'une aide d'urgence, mais la question est de savoir si celle-ci sera à la hauteur des enjeux. On parle ensuite jeu de hasard. Les Tchèques ont dépensé des sommes records l'an passé dans le secteur. Guillaume Narguet vous dira tout dans un instant sur le sujet. Et puis, comme un jeudi sur deux, on retrouvera la rubrique touristique de Radio Prague. Denisa Tomanova vous propose aujourd'hui de partir à la découverte de Ružice, le village natal du célèbre illustrateur tchèque Josef Lada. Bonne écoute à tous et à toutes. En grave difficulté depuis de longs mois, les producteurs laitiers tchèques vont bénéficier d'une aide d'urgence annoncée par Bruxelles en début de semaine. Un soutien financier sous réserve d'une baisse de la production du lait que d'aucuns jugent pourtant insuffisant, d'autant plus que les agriculteurs tchèques font face à d'autres difficultés. Les plus modestes d'entre eux s'inquiètent notamment de l'introduction du fameux registre centralisé des recettes des entreprises. Depuis la fin du système européen des quotas laitiers au printemps dernier, les prix du lait ne cessent de baisser et atteignent des niveaux catastrophiques. En juin dernier, les agriculteurs tchèques vendaient chaque litre de lait 2 couronnes, soit environ 7 centimes d'euros, sous le coût de production. Une situation encore aggravée par l'embargo sur les produits alimentaires européens et donc sur les produits laitiers décrété par Moscou et récemment prolongé jusqu'à fin 2017. D'autant plus que certains pointent du doigt la responsabilité des chaînes de distribution, à l'instar de Miroslav Toman, le président de la Chambre agraire, qui les accuse d'acheter prioritairement leurs produits auprès des agriculteurs des pays dont elles sont originaires, au détriment des producteurs tchèques. C'est pour répondre à cette crise de la surproduction qui touche toute l'Europe que la Commission européenne a annoncé lundi le déblocage d'une aide d'urgence à hauteur de 500 millions d'euros pour soutenir les marchés laitiers, une enveloppe similaire à celle déjà mobilisée par Bruxelles en septembre dernier. La République tchèque devrait bénéficier de 10,4 millions d'euros, ce qui satisfait le ministre de l'Agriculture, le chrétien-démocrate Marian Jurečka.
Cette dotation est la 10e plus élevée des États membres de l'Union européenne, et je dois dire que cela me satisfait. Les fermiers recevront cet argent dans les prochains mois s'ils n'augmentent pas leur production afin que nous fassions en sorte de stabiliser le marché européen des biens concernés.
L'aide européenne comprend deux volets, l'un pour inciter les agriculteurs à réduire la production en leur achetant des litres de lait non produits, l'autre à travers de l'argent mis à disposition des États pour soutenir directement les producteurs, là aussi à condition d'encourager la baisse de la production. Spécialiste du monde agricole tchèque, Petr Havel est moyennement convaincu.
C'est toujours mieux que rien. Mais il faut considérer cette somme, du point de vue de Bruxelles comme de la Tchéquie, comme un geste de l'Union européenne pour dire qu'elle n'est pas indifférente au sort des producteurs laitiers.
Les éleveurs porcins sont également concernés par l'aide européenne et avec les producteurs laitiers, ils ne sont pas les seuls en difficulté. Les agriculteurs les plus modestes, qui vendent une partie de leur production sur les marchés, s'inquiètent en effet de la nouvelle loi sur le registre électronique centralisé des recettes des entreprises. Avec ce texte adopté au début de l'année et visant à tracer le paiement de la TVA, les producteurs devront s'équiper avec un matériel coûteux pour pouvoir vendre leurs marchandises directement aux consommateurs. Voilà qui risque de mettre la tête sous l'eau à de nombreuses entreprises familiales, selon Jiří Sedláček, le président de l'Association des marchés fermiers.
Il s'agit souvent de produits en si faible quantité qui proviennent des jardins ou de petites surfaces. Ce sont des volumes si faibles, si marginaux, que cela ne vaut pas le coup, non seulement pour les producteurs sur les marchés de se procurer cette technologie, mais aussi pour les services de l'État d'engager des moyens afin d'encadrer cette activité.
Des arguments auxquels est sensible le ministre Marianne Jurečka, qui soutient en conséquence un amendement pour que le registre centralisé des recettes ne concerne pas les agriculteurs qui vendent leurs produits sur les marchés et qui réalisent des bénéfices inférieurs à 20% du salaire moyen avec cette activité. Seulement voilà, le ministre des Finances Andrei Babiš, qui détient par ailleurs le plus grand groupe agroalimentaire du pays et qui a été l'instigateur de cette mesure, s'oppose à toute exception à la loi. D'après son ministère, le registre centralisé des recettes devrait fonctionner pour le secteur au plus tôt en février 2018, ce qui laisserait largement le temps aux agriculteurs de prendre les devants et de s'équiper. Les Tchèques aiment jouer et aiment le hasard. Ils jouent même toujours plus souvent et dépensent forcément plus d'argent. Ainsi, selon le rapport annuel du Centre national d'observation des drogues et des dépendances, publié mercredi par le gouvernement, les Tchèques ont misé environ 5,6 milliards d'euros en 2015, que ce soit dans les salles de jeu, les bureaux de Paris ou encore sur Internet. Un chiffre record est donc en hausse malgré l'application de la politique de régulation, notamment des machines à sous automatiques. La parole à Guillaume Narguet.
Loterie, paris sportifs ou encore casinos et jeux de toutes sortes ou presque sur Internet, les Tchèques, et ils ne sont pas les seuls en Europe, dépensent de plus en plus d'argent dans ces pratiques, concrètement 10% de plus en 2015 qu'en 2014. Rien que pour les événements sportifs, les Tchèques ont parié l'année dernière pour un montant total de 1,4 milliard d'euros, soit près de 7 fois plus qu'il y a 7 ans de cela. Cet exemple illustre notamment l'important développement des jeux en ligne, moteur aujourd'hui de cet engouement. Selon Injich Viborgil, coordinateur national de la lutte contre la drogue, il existerait à l'heure actuelle quelques 150 000 joueurs considérés comme étant à risque en République tchèque, dont 40 à 80 000 s'adonneraient aux jeux de manière compulsive et pathologique. Pour autant, le vice-ministre des Finances, Andrzej Zawodzki, qui est chargé lui du suivi des loteries, estime que dans certains cas, l'évolution de la situation est plutôt positive.
Nous observons une baisse sensible des pratiques que je qualifierais de hasard dur, c'est-à-dire des jeux de type machine à sous. C'est là une évolution positive car ce sont ces comportements qui sont la cause des dépendances aux jeux les plus graves et qui ont les conséquences les plus graves pour les victimes et leurs familles. Or, en 2015, ce sont quelques 3 milliards de couronnes de moins qui ont été misées.
Ces dernières années, effectivement, le nombre de bars à jeux appelés Herna en Tchèque a considérablement diminué en raison essentiellement de la volonté des villes et communes de voir disparaître, malgré les pertes financières que cela entraîne, ces établissements de leur cadre de vie. Pour autant, les Tchèques n'ont pas cessé de jouer. La différence est qu'ils le font désormais beaucoup plus sur Internet. Jusqu'à présent, cependant, la législation en vigueur ne laisse que peu de place au hasard en ligne. Seuls les paris y sont légaux et seules les sociétés tchèques peuvent bénéficier de la licence leur permettant d'exercer leur activité. Pour le reste, les autres jeux d'argent et les sociétés basées à l'étranger n'y ont pas leur place, une réalité qui n'empêche pas les Tchèques de jouer là où bon leur semble. Le Centre national d'observation estime ainsi que le nombre de mises illégales est pratiquement identique à celui de mises légales, le tout pour une somme totale de près de 150 millions d'euros chaque année, soit un manque à gagner pour l'État en termes de rentrée fiscale de l'ordre de 37 millions d'euros. La situation évoluera à compter du 1er janvier prochain avec l'entrée en vigueur de l'amendement à la loi qui doit permettre justement aux sociétés étrangères de proposer légalement leurs services sur Internet, mais aussi l'accès à tous les types de jeux qui pour l'heure ne peuvent être pratiqués officiellement qu'offline. Cette nouvelle législation devrait donc permettre de mieux suivre encore l'évolution des choses sur un marché et dans un secteur d'activité particulièrement porteur et juteux.
On passe à la rubrique touristique. Josef Lada est un peintre, écrivain et illustrateur tchèque dont le talent a été reconnu dans le monde entier. Né en 1887 à Rusice, village de Bohême centrale situé à une trentaine de kilomètres au sud-est de Prague, Josef Lada s'est fait connaître essentiellement à travers ses livres et illustrations pour enfants dans lesquels sont mis en scène différents personnages et animaux, parfois fictifs, devenus cultes depuis pour plusieurs générations de Tchèques. Marchons donc sur les pas de Józef Lada pour découvrir Rusice, un village qui a été pour lui une source d'inspiration inépuisable, présente dans la majorité de ses œuvres, une rubrique signée Denisa Tomanova.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
Après une demi-heure de train en provenance de Prague, nous changeons de moyen de transport dans la commune de Strančice pour finalement arriver à bon port, non pas en bateau mais en bus, à Rusice, ce petit village pittoresque caché au milieu des collines. L'aspect du village a beaucoup changé avec les années, mais l'esprit artistique de Józef Lada y reste bel et bien présent. Non seulement grâce aux panneaux qui conseillent aux touristes les chemins à emprunter, en remontant le temps aux côtés des personnages de Józef Lada, mais aussi à travers différentes allusions à ses dessins que l'on trouve un peu partout dans le village. À quelques pas de l'unique arrêt de bus, nous retrouvons Martina Svobodová, guide au musée Józef Lada depuis 11 ans.
Nous nous trouvons ici dans l'ancienne maison d'été de Józef Lada. Sa construction a débuté en 1935 et Lada s'y est rendu régulièrement jusqu'à la fin de ses jours. Il est mort 3 jours avant de pouvoir fêter ses 70 ans. Il a été enterré au cimetière d'Olchane à Prague. Sur les photos, on voit bien qu'il se laissait toujours photographier du côté gauche car il était aveugle de l'œil droit. Lada est devenu aveugle en tombant de son berceau à ses 6 mois. Il n'avait donc pas la perception de la profondeur, ses dessins sont plats et c'est peut-être pour cette raison qu'il s'agit d'un artiste absolument inimitable.
Même si on retrouve fréquemment dans ses dessins l'église Saint-Václav, joyau du XIIe siècle et de l'architecture romane qui domine la place du village, Józef Lada ne peignait pas toujours la réalité des lieux. Il les réinventait sans cesse et c'est pour cette raison qu'il est difficile de savoir de quel endroit précis il peignait ses tableaux. Géré par le musée régional de la ville de Brandýs nad Labem, le musée Józef Lada est un arrêt incontournable de toute visite à Rusice, car il retrace tant la vie professionnelle de l'artiste que sa vie privée.
Sur les photographies familiales, on peut voir le père de Józef Lada qui était cordonnier. Józef Lada était le dernier d'une fratrie de 4 enfants. Il avait un frère, František, et 2 sœurs, Marie et Antonie. On peut également voir à quoi ressemblait la maison familiale qui a été rasée en 1932 à cause de son état délabré. De nos jours, il y a une autre maison qui porte une plaque commémorative. La femme de Józef Lada, Hanna Budějická, a été sa compagne pendant 18 ans avant qu'il ne se marie en 1923. Leur fille aînée, Alena, née 2 ans plus tard, a hérité du talent de son père. Leur fille cadette, Eva, qui était douée pour la musique, n'avait que 17 ans lorsqu'elle a été tuée lors d'un bombardement à Prague à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Madame Ladová ne s'est jamais remise de cette perte. Elle est tombée gravement malade avant de décéder en 1951.
Dès son plus jeune âge, Józef Lada s'est passionné pour la peinture et son village natal folklorique y a bien été pour quelque chose. Néanmoins, il quitte Rusice pour Prague à l'âge de 15 ans et exerce tout d'abord le métier de peintre-décorateur avant de devenir apprenti relieur et d'horreur. Très vite, il se lance en autodidacte dans le métier d'illustrateur et écrivain et revient fréquemment à Rusice où il commence à écrire un de ses best-sellers pour enfants, Le chat Mekesh, ce chat noir qui sait parler la langue des hommes, comme l'explique Martina Svobodová.
Vlastně i Kocourmike, což je nejslavnější kniha dětská, tak Pepík Ševců, který naučil Kocoura Mikeše mluvit.
Dans un de ses livres les plus célèbres pour enfants intitulé Le chat Mikeche, le héros principal Pepík Ševců, qui apprend à parler à Mikeche, c'est en fait Joseph Vlada lui-même. Il a écrit ce livre sur lui-même. Il avait vraiment un chat noir chez lui qui s'appelait Mikeche, mais le reste des traits de caractère de son héros animal, il les a inventés. Puis, lorsqu'il dessinait les ruines du château de Zelenice, appelé communément Hlaska, qui se trouvait pas loin d'ici, ainsi que l'église et les pignons des maisons de la place principale, il réunissait tous ces éléments et les incorporait dans les tableaux à sa guise. Il partait toujours du village de Hrušice et de son enfance dans ses compositions. Tenez ça, ce n'est pas Mikeche, c'est Madame Mikešová.
Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent non seulement de nombreux contes pour enfants qu'il invente et illustre lui-même, mais aussi ses illustrations du fameux roman satirique de l'écrivain Jaroslav Hašek, Le brave soldat Švejk. Les deux hommes étaient liés d'une grande amitié, et si Josef Vlada a réalisé au total 836 illustrations pour ce roman, Jaroslav Hašek n'a pas pu toutes les apprécier, car il est mort très jeune, à l'âge de 39 ans. D'ailleurs, pour les deux adaptations cinématographiques de cette œuvre, les acteurs ont été choisis en fonction des apparences des personnages dessinés par Josef Vlada. Martina Sobolová poursuit à ce propos.
Švejk je nejslavnější, nejznámější česká kniha ve světě.
Le roman Le brave soldat Švejk est un des romans tchèques les plus connus dans le monde, traduit en 56 langues. Ici, on peut notamment voir un portrait de Jaroslav Hašek dessiné par Josef Vlada à l'occasion du 30e anniversaire de la mort de Hašek. Josef Vlada était un portraitiste exceptionnel. On voit bien que la ressemblance est parfaite.
Vlada byl úžasný portrétista. Ta podoba je tedy úplně dokonalá.
La fille aînée de Josef Vlada, Alena Ladová, qui a hérité du talent de son père, est devenue elle aussi peintre académique et a illustré près de 87 ouvrages, même si elle n'en a écrit qu'un seul, intitulé « Mon papa, Josef Vlada ». Après sa mort en 1992, c'est son fils, Josef Vlada, porteur du même nom que son grand-père, qui est devenu l'héritier de tous les droits d'auteur. Le village de Hrušice et ses alentours offrent également d'autres endroits que l'on peut admirer, comme l'explique Martina Svobodová.
Po vesnici je moc udělané pěkně jako směrovky, tam třeba kde stával.
On trouve des panneaux indicatifs très bien faits dans tout le village qui signalent de nombreux lieux où se trouvait par exemple la demeure des bergers, la maison familiale, la flaque de Jedlička, etc. En fait, on peut y trouver tous les endroits qu'on connaît des livres de Vlada. Dans les alentours, on peut se rendre à l'observatoire astronomique d'Ondřejov ou au château de Berchtold, situé à environ 8 km de Hrušice. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est le chemin du chat Mikeche. Il s'agit d'une balade avec plusieurs arrêts que les visiteurs peuvent effectuer à l'aide d'une carte à tampon ou avec un programme d'accompagnement, lequel est organisé une fois par an au mois de mai. Cette randonnée commence à Hrušice, traverse le village de Mnichovice, où le chat Mikeche se rendait à la fête foraine, puis le village de Svietice, où le chat Mikeche s'est fait voler par des tziganes, et elle continue jusque dans la commune de Říčany.
Ouvert toute l'année, à l'exception du lundi et du mardi, le musée Josef Vlada accueille chaque année entre 17 000 et 20 000 visiteurs. Et de façon assez surprenante, ce sont les touristes japonais qui sont les plus nombreux. Martina Sobolová poursuit.
No to fakt nechápeme, proč jako ty japonské turisty to opravdu velmi úplně i dokonce japonské.
On ne comprend vraiment pas pourquoi les Japonais sont si nombreux. Une fois, il y a même eu une télévision japonaise qui tournait un documentaire sur Vlada. Cela nous a fait une grande publicité. Même si les agences de voyage qui organisent ces excursions sont nombreuses, les Japonais viennent d'eux-mêmes la plupart du temps. Ils aiment beaucoup aussi Antonín Dvořák. Ce sont donc de grands connaisseurs de notre culture. Ils s'amusent beaucoup devant les illustrations de Vlada. Ils les regardent et ils en rient. Mais à vrai dire, il est très difficile d'expliquer pour quelles raisons ils sont si nombreux à venir.
Ça se fait, ça se fait, ça se fait.
Autre lieu incontournable à visiter, la célèbre Hospoda Oseiku, cette guinguette dont l'intérieur est parsemé de dessins ressemblant à ceux de l'Ada, et où se retrouvaient habituellement l'artiste et les habitants du village, autour d'une bonne bière. C'est là que nous avons rencontré Miroslav Šalda, natif lui aussi de Hrušice, et dont le grand-père et Josef Lada allaient à l'école ensemble. Il nous a dévoilé quelques bribes de l'histoire de Hrušice.
C'était évidemment un village agricole, mais il y avait tous les métiers. Il y avait un charron, un forgeron, un cordonnier, et ainsi de suite. Il y avait une épicerie, un boucher, trois auberges, la plus connue étant celle où Seiku, puis celle des Svoboda et des Pokorni. L'école, elle, a été construite en 1764, lorsque Marie-Thérèse a promulgué un décret obligeant toutes les paroisses à fonder une école. De nombreuses organisations qui ont été créées avec le temps continuent d'exister à l'heure actuelle, comme le mouvement sportif et culturel Sokol. D'ailleurs, Josef Lada était un des présidents d'honneur de l'association des Barakšníků, une association attachée aux anciennes coutumes tchèques. À l'époque, c'était les personnes les plus érudites qui dirigeaient ces organisations. Il y avait notamment un théâtre d'amateurs. L'activité de ces organisations était très vaste. Je précise que c'est aussi sous Marie-Thérèse que sont apparus les noms de famille des habitants. À Hrušice, presque tout le monde s'appelait Svoboda avant, c'est-à-dire liberté en français. Et c'est aussi, c'est-à-dire qu'ils étaient affranchis des corvées. Il y avait aussi un moulin. Bref, il y avait vraiment tout ici. Le village était tout simplement autosuffisant.
Le village de Hrušice, qui jouit d'un riche passé, a été témoin également de la construction de l'hôtel Valencia, qui est devenu sous la Première République tchécoslovaque dans l'entre-deux-guerres un influent lieu de rencontre des intellectuels et artistes pragois. De 1931 jusqu'en 1991, le bâtiment a même abrité une des premières salles de cinéma de la région. Hrušice se trouvant à seulement quelques kilomètres de Prague, la commune s'agrandit au fur et à mesure, avec l'apparition de nouvelles maisons modernes qui n'ont plus grand-chose en commun avec le caractère pittoresque du lieu. Mais situé près de la rivière Sázava et donc de la région de Posavie, le village continue néanmoins de faire partie de l'une des plus belles régions de la République tchèque.
Voilà, c'est la fin de ce programme qui s'achève avec cette rubrique touristique dans laquelle Denisa Tomanova nous a emmenés à Hrušice. Merci d'avoir suivi ce programme, merci de votre attention et de votre fidélité. À très bientôt les amis, ahoy !